Chapitre 6. J'ai changé. Quand l'autre fait de moi quelqu'un d'autre. L'expérience de l'altérité finit tôt ou tard par produire des effets. Plus encore que découvrir ton point de vue, je change à ton contact. J'ai pris une nouvelle voie, modifié quelques-unes de mes habitudes, de mes opinions également. Mes goûts ont évolué et dans certaines situations, je ne réagis plus de la même façon. Bref, j'ai changé. En mieux ou non, qu'importe. La preuve la plus tangible que je t'ai rencontré est là. Je mène différemment la barque de mon existence. Camus a constaté combien sa rencontre avec Maria Cazares et la passion de 12 ans qu'ils ont vécue l'avaient transformée. Comédienne, fille du chef du gouvernement de la République espagnole, exilée en France à la suite de l'arrivée au pouvoir de Franco, Maria Cazares a partagé la scène avec Michel Bouquet, Jean Villard ou encore Gérard Philippe. Parcourant les 1000 pages de leur correspondance, on comprend que Camus avait en lui des possibles, une propension à la tendresse, une capacité à se concentrer sur un être et à cesser de s'éparpiller. Une manière de dire oui à la vie, qu'il n'aurait sans doute pas actualisé sans l'amour de Maria Cazares. De cette rencontre, qui eut lieu le 6 juin 1944, jour du débarquement allié, Camus écrit qu'elle l'a remis sur pied. « Tu es entré par hasard dans une vie dont je n'étais pas fier. De ce jour-là, quelque chose a commencé de changer. J'ai mieux respiré. J'ai détesté moins de choses. » J'ai admiré librement ce qui méritait de l'être. Avant toi, hors de toi, je n'adhérais à rien. Cette force, dont tu te moquais quelquefois, n'a jamais été qu'une force solitaire, une force de refus. Avec toi, j'ai accepté plus de choses. J'ai appris à vivre. C'est pour cela sans doute qu'il s'est toujours mêlé à mon amour une gratitude immense. En parcourant leur correspondance, nous sommes tentés de relire certaines de ses œuvres à la lumière de sa rencontre avec Maria. L'homme révolté, notamment, publié en 1951, mais écrit quelques années plus tôt, dans les premières années de leur passion. L'homme révolté est capable de dire non à l'injustice, à l'inacceptable. Il ne le dit pas simplement en son nom, mais au nom de la totalité des existences. Ce qu'il ne peut accepter, il pense qu'aucun homme ne devrait l'accepter. « C'est au nom de tous les hommes que l'esclave se dresse », écrit Camus. Mais il insiste sur le fait que ce non à l'injustice s'accompagne toujours d'un grand oui à la vie. En disant non à l'inacceptable, l'homme révolté acquiesce à la vie telle qu'elle devrait être. Son pouvoir de refus est en même temps une force de consentement. Le nihiliste n'est donc pas un véritable homme révolté. Sans la rencontre de Camus avec Maria Cazares, l'homme révolté aurait probablement été essentiellement un homme du non, une figure du refus, et non ce philosophe de l'espoir, de l'affirmation, ce guide si précieux et profond. Camus écrit à Maria ce qu'il lui doit. « Tu ne t'es pas rendu compte que tout d'un coup, j'ai concentré sur un seul être, une force de passion, qu'auparavant je déversais un peu partout au hasard et à toutes les occasions. » L'écrivain avait une réputation d'être un homme à femme. Il en a probablement croisé beaucoup. Mais Maria est la seule à qui il écrivit 500 lettres. Les autres, il ne les a pas rencontrées de la même manière que Maria. Il n'a pas changé à leur contact. Auparavant, il déversait un peu partout sa force de passion. Grâce à Maria, il la concentre sur un seul être. Il se révèle capable de prendre soin de ce qui lui est précieux au lieu de se disperser. Accumuler les conquêtes est narcissiquement plaisant et source de plaisir. Avec Maria Cazares, il découvre un amour différent, davantage tourné vers l'autre, capable de s'installer dans la durée et de nourrir un bonheur qui ne se réduit pas au plaisir. Cette temporalité est nécessaire pour se découvrir et découvrir l'autre. La belle correspondance entre Camus et Maria nous donne aussi à voir ce que nous constatons bien souvent dans nos chats actuels. Il est possible d'entretenir une histoire d'amour à distance, de faire vivre un lien malgré l'éloignement géographique ou l'impossibilité de se retrouver physiquement. Finalement, sur la totalité de leur histoire, Albert Camus et Maria Cazares se seront peut-être plus écrits que vus. Certaines lettres montrent que le souvenir d'instants vécus, pourvu qu'il soit évoqué, raconté, alimenté, en partie réinventé parfois, est capable de les égaler en intensité. Don Juan, lui, ne change pas. Séduisant toutes les femmes, il n'en rencontre aucune. Pour un séducteur tel que lui, ou comme semble l'avoir été Camus, dans une moindre mesure, toutes les femmes se ressemblent. Elles lui tendent le même miroir dans lequel s'admirer. Peut-être d'ailleurs, le séducteur a-t-il peur de l'amour, de la vraie rencontre, précisément pour cette raison. Il s'aime trop pour désirer changer. À moins que ce ne soit le contraire, il ne s'aime pas, mais croit impossible de devenir quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, la rencontre ne l'intéresse pas. Il demeure identique à lui-même. On entend souvent dire qu'être aimé, c'est avoir la chance d'être tel que nous sommes. Celui ou celle qui nous aime vraiment nous accepte, alors avec nos forces et nos fragilités, sans vouloir que nous soyons différents. C'est probablement vrai. Mais se sentir aimé de la sorte peut aussi nous donner la force d'affronter nos démons et finalement de changer. Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote donne une jolie définition de l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un qui nous rend meilleurs. L'ami n'est pas simplement celui sur qui nous pouvons compter ou à qui nous pouvons confier nos doutes ou nos craintes. Il est cette opportunité, ce kairos en grec, grâce à laquelle nos dispositions potentielles vont se réaliser, grâce à laquelle notre puissance, entendue comme un champ des possibles, va devenir effective, s'actualiser. Nous pouvons même être en rivalité avec cette personne, ou ne la voir que de manière épisodique. Elle est notre amie au sens d'Aristote si la relation que nous entretenons avec elle nous permet de nous développer. Ainsi, nos amis, un professeur dont les cours éveillent en nous un appétit de savoir nouveau ou l'envie d'emprunter une voie que nous n'avions pas envisagée, un thérapeute qui nous permet de nous délivrer de nos symptômes et de relever la tête, un collègue aux côtés duquel nous avons traversé une crise et qui nous a aidés à tenir, notre amour peut également être notre ami au sens d'Aristote. Camus ne reconnaît-il pas que sa rencontre avec Maria l'a fait progresser, l'a rendu plus fier de sa vie, moins prompt à la détestation, plus ouvert à l'admiration. Cette force d'approbation se trouvait déjà en lui, mais la rencontre avec Maria lui a permis, pour employer les termes d'Aristote, d'actualiser cette disposition. Il ne s'est pas simplement ouvert à la vision du monde de Maria, il a fait évoluer la sienne. Lorsque nous changeons, au contact des autres, nous comprenons combien nous avons besoin d'eux pour devenir nous-mêmes. Un effroi nous saisit d'ailleurs à cette idée. Si nous ne rencontrons pas les bonnes personnes, se pourrait-il que nous mourions, inachevés, inaccomplis. Éluard et Picasso, une amitié sublime. Picasso est la figure de l'artiste accompli. Créateur hors norme, il incarne une forme de puissance dont on ne voit pas bien, au premier abord, ce qu'elle pourrait devoir à l'autre. Pourtant, sans sa rencontre avec Éluard, il n'aurait pas été le même. Sa vie et ses œuvres auraient été différentes. Se plonger dans l'histoire de cette amitié sublime entre Éluard et Picasso, ainsi que la qualifie Éluard, permet de comprendre qu'il est des rencontres amicales comme des rencontres amoureuses. Elles aussi ont le pouvoir de nous ouvrir à d'autres dimensions de nous-mêmes. Parmi les nombreuses amitiés de Picasso, celle d'Éluard occupe une place à part. Ses autres amis, Cocteau le premier, étaient au service du maître. Ils admiraient Picasso davantage que l'inverse. La relation avec Éluard était différente. Ils se croisaient depuis les années 20. Le poète collectionnait les tableaux du maître et le peintre fréquentait les surréalistes dont Éluard était une figure majeure. Mais ils ne se rencontrent vraiment qu'en 1934. Le peintre s'attache alors à Éluard comme jamais il ne s'était lié à quelqu'un. Picasso est un licencieux à la sensualité guerrière, conquérante. Éluard est un idéaliste, un pacifiste à la conscience politique aiguë. Picasso fait au contact d'Éluard une expérience de l'altérité dont il va sortir transformé sur le plan intime comme sur le plan artistique. Le génie artistique de Picasso est universellement encensé. Mais Picasso s'est toujours rêvé poète. Pour le peintre du portrait de Dora Maar ou du portrait de Nouche Éluard, la poésie est l'art majeur. Il la place au-dessus de tout. Face à l'auteur de « Capitale de la douleur », le géant se sent soudain petit. Aux côtés d'Éluard, Picasso n'est plus ce monstre imposant, mais un poète amateur, peut-être même contrarié. Il s'émerveille de la manière dont Éluard produit en quelques mots des images figurantes, des visions que, comme lui, il donne à voir, mais dans le genre artistique suprême. Il vit cette admiration sans aucune rivalité, dans une fascination éblouie. Éluard ressent d'ailleurs la même chose. Lui aussi a l'impression de réapprendre à voir au contact de Picasso, comme il le laissera entendre dans ce panégyrique en 6 parties dédié à Pablo Picasso, en ouverture du recueil Donné à voir, paru en 1939. Tout renaît sous tes yeux justes et sur les fondations des souvenirs présents, sans ordre ni désordre, avec simplicité, s'élève le prestige de donner à voir. Éluard affirmera avoir été heureux de vivre au XXe siècle parce qu'il a pu y rencontrer Picasso. Par ailleurs, l'amour de la peinture de Picasso est indissociable de son amour des femmes. « La peinture n'est jamais chaste », répétait souvent celui qui collectionnait les muses et les modèles, les épouses et les maîtresses, les prostituées et les égéries, et qui était un séducteur cruel, infidèle, mais jaloux, d'une possessivité maladive. Picasso a bien des femmes. Il s'en sert pour créer. Picasso a besoin des femmes. Il s'en sert pour créer. Elles sont instrumentalisées, bien souvent consommées. Il agit comme si elles lui appartenaient. Mais avec Éluard, il rencontre sa femme, Nouche, muse des surréalistes, qui devient l'une de ses modèles. Il apprend à regarder avec des yeux qui ne sont pas celui d'un ogre possessif. Il s'astreint à peindre la femme d'un autre, son plus proche ami de surcroît, et découvre qu'une femme peut poser pour lui sans être à lui. Picasso se révèle capable d'adorer sans dévorer. Éluard écrit dans une lettre à Roland Ponrose: Picasso peint de plus en plus comme Dieu ou le diable des portraits de Nouche adorables, merveilleux. Il a été un des rares peintres à se conduire comme il faut, et il continue. Dans le « je » de Picasso, la rencontre avec Éluard induit un « je » nouveau, à l'image d'un « je » dans une fenêtre ou dans une charnière, un mouvement au cœur de son être, de son identité. Ce qui est d'autant plus intéressant dans le cas d'un homme comme Picasso, qui aurait pu, grâce à son succès, rester figé dans son être. Mais le peintre n'a rien de commun avec le personnage de Sartre dans La Nausée. Le docteur Roger, cet homme plein de lui-même, suffisant, incapable de s'arracher à l'enflure de son être. Les différentes périodes de la peinture de Picasso témoignent au contraire d'une étonnante plasticité. Sa rencontre avec Éluard va lui permettre de découvrir de nouvelles dimensions de sa personnalité jusqu'à le faire changer. Picasso devient un artiste engagé. Tout entier, tourné vers son âge, vers son art, vers l'énigme de la couleur et des formes, vers la puissance sensuelle des femmes qui lui servent de modèle, il n'y a, jusqu'en 1934, pas de place dans sa vie pour la question politique. Attiré par les surréalistes, il s'est toujours senti étranger à leur engagement, mais à ce dogmatisme qui lui semble une faute de goût. Mais lorsqu'Éluard lui parle du communisme, seul rempart contre le fascisme, lorsque le poète évoque un combat pour la paix qui pourrait être aussi bien esthétique que politique, il se surprend à y être sensible. En novembre 1936, les troupes franquistes cherchent à soumettre Madrid par des bombardements et un blocus alimentaire. La population madrilène résiste avec panache. On assiste, dans la ville, à des combats au corps à corps. Éluard publie dans L'Humanité un poème intitulé « Novembre 1936 ». Pour Picasso, c'est le déclic. Indissociable de son admiration pour la poésie de son ami, le peintre comprend qu'il peut lui aussi mettre son art au service de la lutte. Le 27 avril 1937, la petite ville de Guernica est bombardée, détruite par les avions allemands alliés à Franco. À la demande du poète, Picasso en fait le thème de l'œuvre qu'il prépare pour l'exposition internationale de Paris. Éluard compose un poème pour accompagner le tableau géant, mais il est convaincu que le peintre, face à cette tragédie, sera plus efficace que la poésie. Il faut un choc visuel pour déclencher une prise de conscience. Le tableau le plus connu de Picasso est ainsi le fruit d'une amitié. Son origine trouve même naissance chez l'autre. En 1937, Picasso peint « La femme qui pleure », un portrait de Dora Maar, sa maîtresse, conçu comme un post-scriptum à Guernica. Les larmes de Dora y symbolisent le ravage de la guerre et des bombardements. Picasso a toujours peint des corps et des visages de femmes, mais maintenant, il partage le combat de son ami. Il donne un sens politique à son portrait de femme. Sans cette rencontre avec Éluard, qui lui a également présenté Dora Maar, il n'aurait sans doute jamais pris ce virage politique. Le 5 octobre 1944, une annonce paraît dans Libération, préparée par Éluard lui-même. Picasso, le plus grand peintre de l'époque, adhère au Parti communiste.